Merci beaucoup Juliette, à tous. Je suis particulièrement heureuse de participer à cet atelier cet après-midi et je vous prie d'excuser mon absence puisque effectivement j'habite à Ottawa et je ne suis pas en ce moment en France, donc je ne peux malheureusement pas être à Lille avec vous, ce qui est bien dommage, mais j'espère que nous aurons l'occasion de nous croiser prochainement et de pouvoir continuer à discuter de ces sujets qui ne font que commencer. Merci Juliette. Je vais tenter de partager mon écran. Voilà. On y va. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais considérer que oui. Et là, je vais essayer de mettre un diaporama. Voilà. Merci beaucoup Juliette de m'avoir présenté. Donc, effectivement, je vais vous parler du droit à la propriété intellectuelle dans le contexte de l'AI Act et du code de bonne pratique sur les modèles d'IA à usage général. Alors plus spécifiquement, en réalité, je vais vous parler de droit d'auteur, de droit voisin, et donc je ne vais pas évoquer toute la propriété intellectuelle bien sûr, mais spécifiquement le droit d'auteur dans l'AI Act et dans le code de pratique qui met en œuvre certaines dispositions de l'AI Act. Alors pour être sûr que tout le monde soit à la même page, comme on dit, je voudrais quand même rappeler ce dont on parle, et que ce que Juliette a déjà évoqué. Donc il s'agit effectivement de prendre en considération des enjeux de protection de droits d'auteur dans le contexte de l'IA. On est plus spécifiquement concentré sur les modèles plutôt que les systèmes d'IA, et donc les modèles d'IA à usage général, qui sont régis au chapitre 5 du règlement IA. Et la définition est donnée à l'article 3.63, qui nous précise que ce modèle d'IA, un modèle d'IA, se caractérise par le fait d'être entraîné par un grand nombre de données et qu'il est capable d'exécuter un large éventail de tâches distinctes. Et finalement, ce modèle va être utilisé, va être intégré dans des systèmes en aval pour pouvoir atteindre des objectifs un peu plus spécifiques. Donc deux caractéristiques majeures, une énorme quantité de données et une multitude de tâches à accomplir. J'ajoute que le bureau de l'IA est en train d'élaborer des lignes directrices pour spécifier un petit peu plus la définition des modèles d'IA à usage général. Et ces premières propositions font l'objet d'une consultation publique. Donc ce que l'on peut retenir par rapport aux droits d'auteur, c'est qu'à partir du moment où ces modèles sont entraînés sur une très grande quantité de données d'entraînement, ben, potentiellement ces données d'entraînement peuvent être protégées par le droit d'auteur. Différentes sources, qui ne sont pas exhaustives ici, mais juste pour donner quelques idées, les fournisseurs de modèles, des modèles d'IA comme ChatGPT, comme Gemini, comme Meta, comme Llama, etc. Ce genre de modèles ont pu être entraînés à partir de bases de données, donc qui ont pu être achetées ces données qui ont pu être obtenues tout à fait licitement par les fournisseurs de modèles, des données en open source également acquises licitement, également des données crawlées ou scrappées sur Internet, ce qui n'est pas non plus illicite hein, en soi. Mais certains sites, on le sait, sont des sites piratés et potentiellement aussi certaines bases de données sont piratées. Et donc potentiellement, ces modèles ont pu être entraînés par des données piratées. Évidemment, il faut parler avec beaucoup de prudence parce qu'on ne peut pas non plus présupposer qu'il y a nécessairement du piratage. Mais en tout état de cause, on voit bien qu'il y a une potentielle tension entre le respect des principes de droit d'auteur et les entraînements des IA. Alors dans ce contexte, justement, l'AI Act, à l'article 53, donc au sein du chapitre 5 qui régit les modèles d'IA, l'article 53 doit retenir l'attention parce qu'il pose les obligations de ces fournisseurs de modèles. Et deux dispositions concernent plus spécifiquement le droit d'auteur. Donc je les ai volontairement inversées. Tout d'abord, l'obligation de transparence, parce que ça fait écho avec ce que je viens de présenter, donc le fait que ces modèles d'IA soient entraînés à partir d'une quantité massive de données, pour lesquelles finalement, justement, on ne sait pas de quelles données il s'agit, on ne sait pas quelle est leur source, leur origine, est-elle licite ou pas. Et donc, un des objectifs du règlement va être d'apporter un peu de transparence en demandant aux fournisseurs de modèles de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner les modèles d'IA. Alors ce résumé suffisamment détaillé donc, va faire l'objet d'un modèle qui actuellement est élaboré par le bureau de l'IA. Le bureau de l'IA a présenté un premier draft, un premier brouillon en janvier et est en train de discuter avec les partenaires et d'affiner ce brouillon. Comme je ne suis pas du tout en charge de la rédaction de ce brouillon, j'en parlerai pas davantage, mais si vous voulez, on pourra y revenir lors de la période de questions. Ce qui doit aussi retenir l'attention est la deuxième disposition s'agissant du droit d'auteur. Donc les fournisseurs de modèles doivent mettre en place une politique de droit d'auteur conforme au droit d'auteur. Cet article 53.1 petit c pose un certain nombre de questions parce que tout d'abord la législation de l'Union en matière de droit d'auteur, on le sait, n'est pas très homogène puisqu'elle est surtout régie par des directives d'harmonisation, donc on a encore des disparités nationales, ce qui évidemment va poser un certain nombre de difficultés. Et puis cette disposition, vous la voyez ici, fait spécifiquement référence à la directive TAMUN, donc sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, et en particulier à l'article 4, paragraphe 3, donc l'exception de fuite de texte et de données. Donc les fournisseurs de modèles sont ici invités à mettre en place une politique de droit d'auteur et de tenir compte en particulier de l'expression de la réserve des droits dans le cadre de l'exception de fuite de texte et de données. Donc ça veut dire que le législateur européen a l'air de pointer particulièrement cette exception pour essayer peut-être d'articuler l'entraînement des IA et le respect du droit d'auteur. Néanmoins, on va le voir, il y a encore beaucoup d'incertitudes juridiques sur ce point et me semble-t-il, il faut quand même rester prudent sur cette articulation. Alors, pour rappel, cette exception de fuite de texte et de données, donc prévue au sein de la directive sur le droit d'auteur et le marché numérique, donc prévoit, se décline finalement en deux modalités, une qui concerne les fins de recherche scientifique et une autre qui concerne les fins commerciales et qui évidemment va davantage intéresser l'utilisation de l'IA, enfin, l'utilisation des œuvres dans le contexte de l'entraînement des IA par des opérateurs commerciaux. Simplement, pour rappel, l'article 3 donc, vise des recherches scientifiques, donc la finalité est spécifique et les acteurs sont aussi spécifiquement désignés. Et cette exception n'est pas soumise à une quelconque condition, donc les titulaires de droits d'auteur n'empêchent pas que de se soumettre au respect de cette exception. En revanche, l'article 4, donc à des fins commerciales, prévoit deux conditions. Il faut que les œuvres soient accessibles de manière licite et il faut que le titulaire des droits d'auteur n'est pas des droits voisins, n'est pas spécifiquement exprimé une réserve des droits de manière appropriée. Donc c'est ce qu'on évoque souvent comme étant l'opt-out. Donc ce n'est pas un système d'opt-in, ce n'est pas un système de consentement, mais d'opt-out, il faut avoir refusé que ces œuvres soient utilisées pour l'entraînement, que l'exception de fuite de texte et de données ne soit pas applicable dans un contexte commercial. Alors, évidemment, dès le départ, en réalité, ces deux conditions ont causé des difficultés. On a du mal aujourd'hui à exactement savoir ce que ça veut dire accessible de manière licite. Donc, ça fait quand même écho à l'hypothèse de site piraté tout à l'heure. Et puis, comment exprimer la réserve de ces droits? On va le voir pour l'instant. Il y a beaucoup de débats sur le fait de savoir si ça doit être exprimé par un moyen visible par machine et quel serait ce moyen visible par machine qui emporterait l'adhésion de tous les acteurs de l'écosystème, bien l'industrie culturelle que l'industrie de l'IA. Ce qu'il faut aussi ajouter peut-être, et c'est peut-être le point commun entre l'article 53, enfin, entre le chapitre 5 et l'article 4, donc chapitre 5 de l'AI Act, et l'article 4 de la directive droit d'auteur, c'est que dans les deux cas, ces dispositions étaient un peu ajoutées au dernier moment et qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup de réflexion en amont de la part du législateur européen pour savoir exactement ce que l'on voulait viser et en quoi, quel allait être le scope de l'exception en particulier et quel va être l'impact de cette exception. De même que le chapitre 5 sur les modèles d'IA à usage général a été ajouté au cours des négociations du fait de l'arrivée de ChatGPT sur le marché en 2022, comme le rappelait Juliette. Et donc, dans les deux cas, ça n'a pas été pensé initialement par la Commission européenne lors des propositions. Et c'est probablement aussi la raison pour laquelle ces dispositions sont peut-être moins matures que d'autres et posent peut-être plus de difficultés parce qu'elles sont peut-être plus ouvertes, plus incertaines dans leur rédaction. Alors justement, ces incertitudes juridiques, tout d'abord, on peut se demander si le fait d'entraîner des IA à partir de données potentiellement protégées par le droit d'auteur, porte atteinte au droit exclusif et quel droit. On peut d'abord considérer que le droit de reproduction est le premier droit impliqué, disons-le comme ça, puisque en effet, les modèles d'IA à usage général s'entraînent sur une multitude de données et donc il y a nécessairement copie, reproduction des données utilisées pour ce faire. Et peu importe que les données ne soient pas utilisées en tant que telles, ou peu importe finalement qu'on ne cherche pas à utiliser les œuvres en tant que telles, il y a un processus de copie, de reproduction. Et puis, plus récemment, alors que le droit de communication publique attirait peut-être moins l'attention, une requête a été formulée devant la Cour de justice sur ce droit, s'agissant donc d'un agent conversationnel, d'un chatbot, qui restitue des informations, qui communique au public des informations, et donc cette affaire va faire l'objet d'une discussion devant la Cour de justice de l'Union européenne, probablement. Donc on verra si ce deuxième droit exclusif est aussi concerné. On se pose aussi la question de savoir si l'exception de flux de texte et de données est applicable dans le contexte de l'IA générative et de l'entraînement des IA, parce qu'en effet, au plan technique, l'exception de flux de texte et de données vise le mining, donc vise la fouille, et la fouille est destinée à permettre de repérer des patterns, à repérer de l'information, alors que l'IA générative est destinée à produire du contenu synthétique. Donc les fonctionnalités ne sont pas tout à fait les mêmes, et donc ce serait un premier empêchement pour reconnaître l'applicabilité de cette exception. Un autre argument aussi consiste à considérer le fait que l'exception a été élaborée en 2019, donc lors de l'adoption de la directive droit d'auteur, et donc évidemment à ce moment-là, on ne parlait pas dans le grand public d'IA générative, même si ça existait bien sûr en recherche. Et manifestement, quand on regarde les travaux parlementaires, le législateur européen ne visait absolument pas ce contexte. Et donc, ce ne serait pas exactement ce qui est visé dans ce contexte. Et puis, comme je l'ai dit, même à considérer que l'exception serait applicable, les deux conditions de sa mise en œuvre ne sont pas très clairement exprimées, donc accessibilité de manière licite. Donc, ça renvoie, comme je l'ai dit déjà, au fait qu'il faille exclure les sites piratés. Et puis, comment exprimer une réserve de droit visible par machine ? À l'heure actuelle, on manque de standards généralisés sur ce point. Les fournisseurs de modèles d'IA proposent leurs propres standards, mais évidemment, les titulaires de droits d'auteur ne veulent pas qu'il y ait une inversion de la charge de la preuve et ne veulent pas devoir se soumettre à différents moyens d'expression de la réserve de leurs droits. Donc, évidemment, il y a plutôt des tensions et des clivages sur ce point, comme sur beaucoup. Et puis, pour l'instant, la jurisprudence n'est pas très éclairante parce que, bon, même si on peut citer quelques dispositions, quelques décisions de cour nationale, pour l'instant, ça reste à un niveau jurisprudentiel encore assez faible. Et puis, ce ne sont pas des décisions de la Cour de justice. Et dans le cas Layer Case, dans ce cas-là, il s'agissait de l'article 3 de la directive et pas de l'article 4, donc ça n'apporte pas non plus toutes les réponses que l'on aimerait avoir. Et puis, un autre enjeu majeur sur lequel le CSPLA va se pencher, on attend avec impatience l'étude de notre collègue Tristan Azzi, sur la question de la territorialité des mesures, parce qu'effectivement, dans le considérant 106 de l'AI Act, il est question d'appliquer l'AI Act de manière très générale, y compris à la phase d'entraînement des données. Donc, on est vraiment sur l'extraterritorialité de l'AI Act, qui se heurte au principe de territorialité du droit. droits d'auteur. Donc, on a même des questionnements sur le champ d'application territorial des dispositions, donc que ce soit les AIAC et par répercussion le code de pratique. Alors, justement, le code de pratique lui-même est prévu au sein de les AIAC à l'article 56. Et donc, il est prévu que le bureau de l'IA encourage et facilite l'élaboration de codes de bonne pratique, donc notamment s'agissant des modèles d'IA à usage général, mais pas seulement, d'autres dispositions des REACT prévoient de tels codes. Et en particulier, donc, les articles 53 et 55, donc l'article 53 que je citais tout à l'heure, qui contient les dispositions de droit d'auteur. Donc, l'idée ici est d'impliquer un certain nombre de parties prenantes pour la rédaction de ces codes de bonne pratique. Mais vous voyez qu'au point 3 de l'article 56, on distingue quand même, il y a deux niveaux de participants, si je puis dire ça comme ça, les fournisseurs de modèles d'IA d'un côté, et puis tous les autres de l'autre côté, donc les organisations de la société civile, l'industrie, l'université, les experts, et donc, évidemment, les modèles ont une place un petit peu à part dans ce processus, en raison de ces dispositions, et puis en raison du fait que ce sont eux qui doivent signer le code de bonne pratique, et enfin, en tout cas, sont invités à signer ce code, alors que tous les autres participants ne participent à l'élaboration du code, mais ne participent pas à sa signature. Donc évidemment, ça crée une certaine distinction parmi ces fournisseurs. J'ajoute aussi que même si le processus est ouvert, c'est un processus participatif et itératif, le bureau de l'IA et le comité IA qui représentent les États membres participe étroitement au processus, et j'ajoute aussi que le Parlement européen participe aussi, bien que ce ne soit pas prévu dans le texte. Et donc, en bout de ligne, même si le code de bonne pratique est élaboré par des experts qui agrègent les informations qui sont fournies par toutes les parties prenantes, le bureau d'IA, le comité doivent évaluer et approuver le code, de même que les fournisseurs, et évidemment, éventuellement le signe. Donc, toutes les parties jusqu'au bout du processus doivent être engagées pour aboutir à ce code, espérons-le. Et puis, donc, une fois qu'il est adopté, la commission peut ensuite l'approuver pour pouvoir l'étendre, pour lui donner une validité générale. Ce qui ne veut pas dire qu'il va s'imposer d'emblée en tant que tel. Il faudra toujours que les fournisseurs signent ce code. Mais ça permet d'ajouter des nouveaux signataires au-delà de ceux qui ont contribué à l'origine au processus. Et donc, à ce moment-là, le bureau pourra inviter tous les fournisseurs de modèles à signer ce code. Le code devait être élaboré au plus tard le 2 mai, mais finalement, il n'entre en application que le 2 août. Donc, il y a une petite marge de manœuvre que la Commission est en train d'utiliser en ce moment. Pour pouvoir aboutir au processus. Et si finalement le code n'aboutit pas, la Commission européenne pourra prendre des règles communes. Enfin, dans le processus normatif, j'ajoute que ce code de bonne pratique est mis en œuvre en attendant des standards, des normes techniques harmonisées qui prendront probablement encore plus de temps. Donc c'est la raison pour laquelle le législateur européen ici a fait preuve d'une certaine innovation normative par l'élaboration de ce code de bonne pratique, qui est un modèle tout à fait unique puisqu'il est rédigé par des experts, donc deux ou trois experts par groupe de travail. Et ici, vous voyez donc les groupes de travail en question, donc quatre groupes de travail, un sur la transparence et le droit d'auteur qui finalement a été distingué. Donc moi, je participe à celui du droit d'auteur avec mon collègue le professeur Alexander Peukert. Et puis les trois autres groupes de travail sont vraiment sur les questions de safety, security, des IA. Et donc se répartissent la tâche sur la classification, la minimisation, la gouvernance de ces risques. Et donc c'est un modèle tout à fait unique, mis en œuvre par la Commission européenne, avec ses forces et ses faiblesses. Hein, on pourra y revenir pendant la période de questions. Mais en tout cas, la volonté ici est encore une fois de mettre en œuvre un processus participatif et itératif avec quatre drafts, quatre brouillons, quatre projets de ce code de pratique, de façon à permettre à toutes les parties prenantes de faire leurs commentaires écrits, de participer à des meetings. Et je tiens quand même à dire que très clairement, c'est ces commentaires sont pris en compte, sont lus et pris en compte par les experts. Alors pour la partie droit d'auteur, donc bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans trop de détails, mais juste pour dire que 6 mesures sont mises en œuvre dans le troisième draft. Le quatrième draft est prêt, mais je ne peux pas vous le montrer. Mais en tout cas, il y a des dispositions qui peuvent, juste pour passer au travers de ces dispositions, ce sont surtout les mesures 2 et 3 qui s'intéressent à la question de l'opt-out, donc de l'expression, de l'exception de fouille de texte de données et de l'expression de la réserve des droits par les titulaires de droits d'auteur. L'idée quand même du code est de ne pas se prononcer sur l'incertitude juridique consistante à savoir si cette exception s'applique ou pas. Nous, on met en œuvre l'article 53.1.C qui mentionne cette exception, donc c'est la raison pour laquelle on la retrouve dans le code, mais on est très prudent sur l'applicabilité, ça revient à la Cour de justice de se prononcer sur ce point. Et puis, on a aussi des dispositions, donc c'est la mesure 5 sur l'aval, donc s'agissant de la reproduction des œuvres automatiquement par le processus, les résultats produits par les modèles d'IA. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je vois que mon temps est déjà écoulé, mais si vous voulez, on reviendra sur ces dispositions en amont et en aval pendant la période de questions. Et donc, simplement pour dire que la valeur normative du code de pratique est d'un certain côté assez limitée, puisque le code est volontaire et les fournisseurs de modèles ont le choix de signer ou de ne pas signer. Néanmoins, tout le processus est quand même fait pour les impliquer, pour leur permettre d'itérer et de faire valoir leurs arguments, tout comme les titulaires de droits d'auteur d'ailleurs. Et que finalement, si les fournisseurs de modèles refusent de signer, ben, ils vont devoir prouver par eux-mêmes leur conformité au règlement. Donc ça alourdit la charge de la preuve. Et puis très clairement, la Commission européenne fait passer le message dans son projet de ligne directrice encore en consultation les lignes directrices qui accompagneront le code, que les signataires du code auront surtout à prouver leur conformité aux dispositions du code, alors que les non-signataires vont devoir prouver davantage finalement les moyens adéquats de leur conformité au règlement. Bien évidemment, je le précise, se conformer au code ne veut pas dire se conformer au droit d'auteur, et toutes les dispositions du droit d'auteur continuent de s'appliquer, évidemment. On respecte la hiérarchie des normes, un code de bonne pratique n'a pas vocation, évidemment, à modifier le droit d'auteur, contrairement peut-être aussi à ce que certaines parties prenantes voudraient faire au cours des discussions. Donc, en conclusion, beaucoup de questions restent en suspens concernant le code lui-même, sur le fait qu'il sera ou pas approuvé, sur le fait qu'il sera signé ou pas, sur son entrée en application, parce qu'on entend par ailleurs des dispositions sur la simplification du droit du numérique et sur les dispositions qui pourraient permettre d'arrêter le temps. Très franchement, je n'ai pas d'informations sur ce point et je pense que ce serait plutôt pas le cas, mais on verra. Énormément de questions sur le droit d'auteur, ce qui pose la question de la réouverture ou non, réouverture partielle ou non de la directive. Je pense qu'on pourra y revenir pendant les questions. Et puis évidemment, un contexte géopolitique très complexe et particulièrement sous tension avec toutes les discussions qui peuvent avoir lieu aux États-Unis et la pression de l'administration Trump sur la Commission européenne en particulier. Et donc, voilà, on pourra revenir sur ces éléments pendant la période de questions. Je vous remercie de votre attention.